magazine des voyages. Ludovic Duno, Ziad Malouf, Olga Samsonov.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent le 10 mai en France. C'est depuis 2006 la journée officielle de commémoration des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. De nombreuses manifestations sont prévues en métropole, comme dans les dom-tom. Et cette année, on fête aussi en France le 160e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Mais sortons de notre cadre français, partons en voyage, puisque c'est le but de notre rendez-vous, et visitons la planète sur les traces de l'esclavage.
Europe, Afrique, Europe, voilà notre route cette semaine. De nombreux sites africains gardent encore la trace du départ des esclaves. Au nord, les deux principales nations négrières, la France et la Grande-Bretagne, se confrontent enfin à leurs tabous et montrent depuis peu leur passé esclavagiste. Devoir de mémoire, besoin de précision pédagogique pousse enfin à l'ouverture de nouveaux musées. Le ciel est gris, le vent souffle sans arrêt. On est au bord du fleuve Mersey, en Angleterre, entouré de bâtiments bourgeois.
Les docks se succèdent à perte de vue.
Ici, on est devant l'immeuble du Mersey Dock on Harbour. C'est cette société qui a construit le port de Liverpool. À un moment, ce fut le plus grand port du monde. Quand on regarde ce beau bâtiment, on ne devrait pas se demander pourquoi il a été construit, ni qui l'a construit. Quand on regarde ce bâtiment, ce qu'on doit se demander, c'est cela. D'où vient l'argent qui a permis de le construire?
Arrachés à leur sol natal, transportés dans un pays étranger sans langue commune, accablés de travail, ils partaient de cette île sous des numéros matricules, rarement sous leurs noms africains. Et dans les plantations, ils prenaient le nom de leur propre être blanc. La traite des noirs a duré 300 ans, 3 siècles de 1536 à 1848. En tant que conservateur de ce lieu, j'ai dit que j'en parlerai toute ma vie. Merci beaucoup.
De Liverpool à l'Afrique, un fil est tendu, un lien étroit qui persiste, même si on a longtemps voulu le cacher. La mémoire de la traite est partout, il suffit d'ouvrir les yeux, les oreilles. Les pierres parlent, elles nous transportent par-delà l'océan vers Dakar, au Sénégal par exemple.
Comme un poste avancé de la ville, la petite île de Gorée est aujourd'hui synonyme d'exotisme, de plaisir balnéaire, avec ses maisons ocres, ses bougainvillées, ses rues de terre battue. Elle attire de nombreux Européens, mais aussi des Africains, qui viennent visiter un bâtiment rose de 2 étages. C'est la maison des esclaves et sa célèbre porte du non-retour. Impression.
Il y a tellement de l'émotion quand on suit toute l'histoire et tout ce que nos grands-parents ont vécu.
Ça fait trembler.
Ouais. Vraiment trembler.
Les gens étaient aptes à partir, aller travailler dans des plantations et tout. Donc,
c'était des animaux.
Voilà.
Il ne faut jamais que ça meure. Il faut que nos enfants, nos petits-enfants sachent que des choses comme ça sont passées.
Et comme on dit, le rappel est pédagogique.
Vous, c'est la première fois que vous venez ici?
Oui, c'est la première fois. Quand j'y vais, je me dis les ancêtres certainement sont passés par là aussi. Qui sait?
Vous venez d'où?
Je viens du Cameroun. Véritablement, c'est une histoire qui reste gravée quelque part.
Quand tu es là, devant la porte sans retour, et tu vois la mer, et forcément, tu sens les personnes qui ont passé par là, et jamais ils sont retournés. Et tout ça, ça me fait mal, voilà. Je ne peux rien faire, mais on va prier pour toutes les personnes qui sont passées par là, voilà.
La visite de la maison des esclaves est émouvante, mais elle est tout de même sujette à caution. On prête à son conservateur, Joseph Ndiaye, une imagination débordante. Mais finalement, ce n'est pas si important. Les lieux de souvenirs, même quelquefois romancés, sont tout de même essentiels pour ouvrir les esprits.
Gorée est un des sites africains liés à l'esclavage les plus visités. Des touristes européens, des Africains viennent ici, mais aussi des Afro-Américains. Ils sont de plus en plus nombreux à retourner sur les traces de leurs ancêtres. Des associations, des voyagistes, des offices de tourisme œuvrent pour les attirer sur le continent. Au Sénégal, bien sûr, mais aussi au Bénin ou au Ghana, où il existe même un ministère du tourisme et de la diaspora.
Mais il y a un pays qui résonne particulièrement dans le cœur des Afro-Américains, c'est la Gambie et la petite île de James Island.
Cette île a été découverte par les Portugais au XVIe siècle. Elle est située au milieu de l'embouchure du fleuve Gambie. Cet endroit était surtout utilisé comme camp de transit pour les esclaves. Personne ne pouvait s'en évader pour retourner chez lui, puisqu'elle est au milieu de l'eau. Quand on capturait les gens au nord ou au sud, on les amenait ici pour 2 semaines. Plus on les gardait, plus ils étaient faibles. Et comme ça, on pouvait les transporter plus facilement d'ici, d'Afrique, vers un monde inconnu.
Right, let's proceed inside.
Si vous voulez bien entrer, mesdames et messieurs.
Right, now here we are.
Nous sommes maintenant dans les 2 pièces où on mettait les esclaves. Une pièce pouvait accueillir 26 à 30 esclaves. Il n'y avait pas d'endroit pour s'allonger. On pouvait juste s'adosser au mur. Et tous ceux qui étaient enfermés ici ne retrouvaient jamais la liberté.
James Island, un tout petit caillou, est classé patrimoine mondial par l'UNESCO. On y trouve les modestes vestiges d'un fort carré entouré de bastions, les ruines d'une forge, d'un magasin et la maison des esclaves. Mais ce ne sont pas uniquement ces vestiges-là qui attirent les Noirs américains en Gambie.
Maintenant, on va aller voir l'endroit où ils ont capturé Kunta Kinte, l'endroit où ils l'ont enfermé.
Kunta Kinte, les amateurs de littérature et de télévision connaissent ce personnage du roman et de la série télé Roots, Racines. Dans cette épopée, l'auteur Alex Haley raconte l'histoire de sa famille en commençant par l'enlèvement de son ancêtre Kunta Kinte qui vivait, d'après lui, en Gambie.
Elle vivait à Djofouré, exactement, un village qui attire aujourd'hui des milliers de visiteurs qui l'accueillent dans un petit musée consacré à la traite négrière.
So this is inside the museum in Djofouré.
Voici donc l'intérieur du musée de Djofouré. Ici, vous pouvez voir la carte qui explique le commerce triangulaire. Bon, maintenant, cela fait partie de l'histoire et nous sommes désormais dans un monde moderne. Ceci dit, certaines formes d'esclavage persistent de nos jours. L'asservissement mental, l'esclavage des enfants. Mais en tout cas, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, tout le monde a compris que personne n'est innocent. On est tous coupables. Mais c'est vrai que les Américains sont les plus sensibles à cette histoire. En particulier les Afro-Américains, parce qu'ils ressentent le mal qui a été fait à leurs ancêtres.
Et ils viennent souvent ici, les Afro-Américains ?
Oui, encore. Hier, nous avions un groupe d'environ 60 Noirs américains. Nous les avons emmenés dans les alentours, mais c'était très difficile, car de 15h à 20h, nous avions du mal à avancer dans la visite, tant les touristes pleuraient, d'autres se sont évanouis. Le choc devant un tel passé était trop violent pour eux.
Pendant que l'Afrique se bat pour valoriser la mémoire de l'esclavage, les ports négriers européens brisent leurs tabous et osent enfin afficher ce pan sombre de leur histoire.
Retour à Liverpool, au Royaume-Uni.
To me, to be free means that your life.
Nous sommes là à l'entrée du musée. C'est une introduction au thème de l'esclavage transatlantique et plus généralement aux questions de liberté et d'asservissement. Vous voyez ici des écrans vidéo et vous entendez des voix de personnes de la diaspora qui expliquent ce que c'est que la liberté et l'esclavage à leurs yeux.
Nous sommes avec Tony Tibbles au Musée international de l'esclavage de Liverpool. Ce lieu occupe un étage entier du musée maritime que dirige Tony Tibbles au cœur de l'Albert Dock, un ensemble d'entrepôts en briques transformés en espace culturel.
Le musée de l'esclavage, inauguré en 2007, veut raconter la traite transatlantique avec tous les médias dont on dispose aujourd'hui. Films reconstituant une traversée, vidéos de descendants d'esclaves, bornes interactives, tout cela dans un espace ultra moderne. On continue la visite.
Nous sommes maintenant dans la deuxième salle du musée. Ici, on veut expliquer le fonctionnement de la traite négrière, c'est-à-dire comment le commerce d'esclaves a commencé, comment les Européens ont été attirés par l'or et l'argent des Amériques avant de commencer à faire pousser de la canne à sucre pour laquelle ils avaient besoin de main-d'œuvre, ce qui les a conduits à importer des esclaves. Les bateaux qui apportaient les esclaves revenaient ensuite avec des marchandises tropicales, du sucre, puis du coton, du café, des teintures, des épices. Pour expliquer tout cela, on montre toutes sortes d'objets. Ici, vous avez des bijoux en or précolombien. Un peu plus loin, par ici, on peut voir les marchandises qui étaient échangées contre les esclaves dans l'ouest de l'Afrique. Vous voyez des perles en pâte de verre, fabriquées surtout à Venise, mais aussi à Prague et en Cilicie, en Europe centrale. Un peu plus loin, par là, on voit l'implication des Européens, notamment avec les bateaux qui pratiquaient la traite. Ici, vous avez la peinture d'un navire négrier au large des côtes africaines. On sait que c'était un négrier parce qu'il y a 4 trous dans la coque du bateau. C'était pour laisser passer l'air, parce qu'avec des centaines de personnes dans la cale serrées comme des sardines, c'était suffocant. Il fallait donc faire circuler de l'air. Un peu plus loin, on montre des images de Liverpool. La première montre le petit village de pêcheurs que c'était au début du XVIIIe siècle. La seconde montre le grand port que c'était devenu un siècle plus tard, en grande partie grâce au commerce triangulaire.
Ça fait du bien de voir cette ville qui s'est bâtie sur le commerce triangulaire, notamment avec les raffineries de sucre, assumer et montrer son passé. Mais en Angleterre, il n'y a pas que Liverpool qui ose regarder en arrière.
Oui, à Londres, le musée des Docklands, établi dans d'anciens entrepôts de sucre, a également choisi de raconter ce passé. Il propose une exposition permanente intitulée London, Sugar and Slavery. Là encore, images, films, objets expliquent depuis 2003 les liens entre la capitale britannique et la traite négrière. Tom Wareham est le conservateur du musée des Docklands.
Le rôle de Londres dans le commerce des esclaves a longtemps été caché. C'est une question qui a rapidement disparu après les lois abolitionnistes. Aujourd'hui, on commence à réaliser que Londres était l'un des plus importants ports dans le commerce d'esclaves, avec des retombées sur la vie culturelle ou commerciale de la ville. Le message que nous voulions faire passer, c'est que l'esclavage fait partie de l'histoire de la Grande-Bretagne. Pas seulement de l'histoire des Noirs, c'est l'histoire de la Grande-Bretagne, ça nous concerne tous.
J'ai découvert l'existence de cet échange triangulaire. C'est un commerce qui a dû rapporter beaucoup d'argent.
On avait notre propre idée sur la question de l'esclavage et l'exposition confirme ce que l'on pensait.
Je crois que finalement les gens ignorent pratiquement tout de la question de l'esclavage dans ce pays. Peut-être qu'ils étudient un peu la question à l'école. Donc, cette exposition est un outil très intéressant, particulièrement pour les enfants. De cette manière, ils peuvent avoir plus de recul et considérer du point de vue mondial les conséquences néfastes de l'esclavage.
On a un retour du public extrêmement positif, notamment parce qu'on a essayé d'être honnête et sans concession avec l'histoire. On ne prend pas l'abolition de l'esclavage comme un raccourci, c'est une exposition et qui ne brosse pas dans le sens du poil. À l'arrivée, le public est content qu'on lui dise la vérité. D'ailleurs, nous avons de plus en plus de visiteurs. On a une augmentation de 37% avec notamment de plus en plus de visiteurs d'origine antillaise.
La traite négrière n'était pas l'apanage de nos cousins d'outre-Manche. La côte atlantique française en a bien profité, elle aussi, et chez nous également, on commence à exposer cette histoire.
À Nantes, c'est au musée des Ducs de Bretagne que cela se passe. La ville était au XVIIIe siècle le grand port français du commerce triangulaire. Le musée expose entre autres des fers, une matraque, le fameux code noir qui régissait ce commerce en France.
Mais il montre aussi le décor de vie d'un armateur. Meubles sculptés en acajou massif, soieries exotiques qui évoquent évoque finalement indirectement les origines de sa fortune. C'est une autre manière de percevoir en creux, dans l'art décoratif français, les questions de l'esclavage.
La traite négrière a considérablement enrichi la ville de Nantes et particulièrement la classe sociale des négociants et armateurs nantais. La réussite sociale devait absolument s'afficher. On a aussi dans ce musée, juste ici, une pièce amusante. C'était un plat à barbe qui a appartenu à un armateur nantais dont le nom est indiqué, René Laporte, 1773. Et il porte en fait le décor de la Marie Séraphique de Nantes. Et la Marie Séraphique de Nantes, c'est un navire négrier. Donc on fait représenter sur son plat à barbe, sur les objets les plus familiers de la vie domestique, son activité professionnelle. Il n'y avait pas de contradiction, il n'y avait pas de mal-être à être à la fois quelqu'un de très riche et d'être négrier. C'est vrai qu'il y a un raffinement dans le décor, un goût qui s'exprime au travers des arts décoratifs, mais aussi des demeures. Il y a eu à l'époque des constructions d'immeubles splendides à Nantes, les immeubles du Quai de la Fosse, de l'Île Feydeau, mais aussi dans la campagne nantaise, ces riches demeures qu'on appelait les folies nantaises, et dans lesquelles les armateurs investissaient, parce qu'en fait, ces capitaux constitués grâce à l'activité économique et particulièrement à la traite des Noirs, eh bien, faisaient l'objet d'un investissement et notamment dans l'immobilier.
L'Europe assume de plus en plus son passé esclavagiste, on le voit avec ses musées, tous récents, mais nul besoin de s'enfermer pour apprendre.
Retour à Liverpool. Depuis 30 ans, Eric Lynch fouille et sillonne la ville à la recherche des traces du passé. Il propose aux voyageurs une promenade sur le thème de l'esclavage.
Et comme Joseph Ndiaye, le Sénégalais, Eric Lynch matine ses propos de mythologie, mais sa verve reste malgré tout édifiante. On le suit sur Water Street, tout près du fleuve Mersey.
Here we have Morrison's Bank. This bank was built in
1927. Ici, c'est le bâtiment de la banque Martins. Il date de 1927. L'architecte qui a construit cet immeuble connaissait le passé de cette banque. À l'origine, la banque Martins a été unie à une autre banque créée par les frères Hewitt. C'était des négriers qui ont gagné tellement d'argent qu'ils ont commencé à en prêter à des amis et c'est comme ça qu'ils sont devenus banquiers. Et plus tard, la banque qu'ils avaient créée est devenue la banque Martins.
On est devant la porte de cette banque.
Oui, regardez cette frise à gauche de la porte. Au-dessus, vous avez une sauterelle, c'est l'emblème de la banque. Puis vous avez des dauphins et puis Neptune. Neptune a les mains posées sur les têtes de deux enfants africains. Ces enfants portent des paniers qui représentent les richesses de l'Afrique, l'or, les diamants et l'argent. Si vous savez observer, vous n'avez pas besoin de moi pour voir que ces enfants sont des esclaves, debout, sur un navire négrier. Sous leur pieds, vous voyez le pont et des vagues, et puis leurs chevilles portent des chaînes et leurs poignets aussi. Quand cet immeuble a été construit en 1927, on ne ressentait aucune honte à représenter ce genre de choses sur un immeuble. C'est l'arrogance du pouvoir, c'est une manière de dire au monde, voilà qui nous sommes, voilà comment nous avons gagné de l'argent, et les Noirs n'ont aucune valeur. Personnellement, je ne veux pas qu'on efface cette frise. Parce que si on l'enlève, les gens diront que cela n'est jamais arrivé. Ce que je veux, c'est que si cet immeuble était détruit un jour, qu'on prenne ces frises et qu'on les montre dans un musée. Je veux qu'elles y restent pour l'éternité.
Il existe encore beaucoup d'autres lieux liés à la traite négrière. Si vous passez par Ouida au Bénin, vous pouvez vous recueillir devant la porte du non-retour, un monument édifié en hommage aux victimes de l'esclavage. En France, au Havre, la maison de l'armateur évoque aussi la traite négrière dans une de ses salles, par exemple. Dans l'est de la France, une route touristique des abolitionnistes met en avant les maisons de ceux qui ont lutté contre l'esclavage. Victor Schœlcher en tête, évidemment.
Parallèlement, l'UNESCO poursuit son projet de route des esclaves, ce parcours historique et scientifique qui vise à briser le silence qui entoure ce passé et, je cite, contribuer ainsi à une culture de tolérance et d'entente entre les peuples.
Olga Samsonov, Ziad Malouf, Ludovic Duneau, on vous salue bien. Céline Develay-Mazurel, Loïc Bussière et Pascal Bongo ont aussi réalisé ce magazine. Dans quelques secondes, vous retrouvez un nouveau journal. Nous, on se revoit pour d'autres voyages la semaine prochaine. Salut à tous.
Au revoir.
Voyage@rfi.fr